Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et je te propose aujourd'hui un épisode hors série, un format que j'affectionne beaucoup pour parler amitié et pop culture. Et aujourd'hui, je reçois Junior, podcasteur ciné-série. Il est l'hôte du podcast La saison des séries et le film qui a changé ma vie. C'est ce qu'on appelle un connaisseur du genre et j'ai eu l'occasion de travailler avec Junior pour un épisode de la saison des séries il y a quelques mois. Le lien sera dans la description de cet épisode. Et pour cette fois, j'ai voulu l'amener dans Friendship et lui lancer le défi de sélectionner 3 amitiés de séries qui l'ont marqué lors de son adolescence. C'est très précis, mais c'est une période de la vie où l'on se questionne beaucoup, où l'on se construit. Et je le sais, pour beaucoup, les séries étaient un endroit pour s'évader, pour s'identifier et pour rêver. Alors Junior a relevé le défi haut la main, merci à lui pour sa confiance. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be
there. You can count on me cause I can count on you. À quoi ça sert les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami... C'est moi, tu sais, je suis ton ami.
Salut Junior.
Salut Solène.
Merci d'être avec moi dans Friendship. Aujourd'hui, on fait un épisode hors série pour parler série. Je t'ai lancé le défi de nous parler des amitiés marquantes de nos adolescences. Et donc, on s'est orienté série, évidemment, parce que t'es un spécialiste série, puisque t'as le podcast La saison des séries.
Oui.
Mais avant ça, du coup, je veux quand même que tu te présentes un petit peu, dis-nous-en un peu plus sur toi.
Alors, moi, j'ai plusieurs podcasts. J'ai La saison des séries, dans lequel on est à deux voix et on parle de séries le plus souvent dans l'actualité. Et à côté, on a un spin-off, parce qu'on ne voulait pas rester coincé dans l'actualité. On fait des bons en arrière, plus ou moins lointains. On a parlé, par exemple, récemment d'Emily in Paris, où on peut remonter jusqu'aux années 80, où on a parlé de Seinfeld, et ça s'appelle Un pilote presque parfait. Dans ce podcast, on essaye de passer en revue le premier épisode d'une série, scène par scène. On les décortique une par une, et à la fin, on donne une note, et on essaye d'établir un classement comme ça entre nous pour déterminer quelle est la série par laquelle il vaut mieux commencer, celle qui va vous assurer un bon moment devant votre écran.
D'ailleurs, on a fait un épisode ensemble sur Emily in Paris.
Et c'était trop bien.
Et tu as aussi un podcast sur les films.
Exactement. Là, c'est plus de l'interview. C'est vraiment radicalement différent. Et ça s'appelle Le film qui a changé ma vie. C'est très simple. Je reçois une personne et on apprend à la connaître à travers un film qui l'a marqué pour tout un tas de raisons. Ça peut être un film qui a été une source de vocation, d'inspiration. Et ça peut être aussi un film qui a permis à la personne de s'émanciper sur le plan personnel ou professionnel. Voilà, on fait ça sous forme de portrait.
Super. Et donc, aujourd'hui, on parle série. Donc, vous l'avez compris, Junior est un spécialiste. Je t'ai lancé le défi de trouver les amitiés marquantes de ton adolescence dans les séries, oui. Puisque c'est ton domaine. Et quand on a discuté pour préparer cet épisode, il y a une série dont tu m'as parlé direct, c'est Scrubs.
Oui.
Est-ce que tu peux me raconter un peu, me pitcher un peu cette série et surtout quelle amitié t'a marqué dans Scrubs ?
Scrubs, c'est très simple, c'est l'anti-urgence. Si vous connaissez Urgence ou Grey's Anatomy, c'est l'antithèse. Ces deux grandes séries sont des dramas. Là, on est dans la comédie. On suit le quotidien de JD, John Dorian, et de Turk et Elliot. Elliot qui est une fille. Ils font leur internat de médecine à l'hôpital du Sacré-Cœur. Et au fur et à mesure des saisons, on va voir comment ils évoluent dans un milieu où ils découvrent que la vie n'est pas simple. Et JD, parallèlement à son évolution dans l'hôpital, est pris d'espèces de délire, d'imagination dingue dans lequel il se justement pour éviter de sombrer dans une folie plus noire, plus triste. Il a besoin de ces moments d'évasion et on le suit dans ces délires-là et c'est une série qui est vraiment très drôle. Je vous la recommande chaudement et j'ai été particulièrement marqué par l'amitié entre John Dorian, JD, et Turk, Christopher Turk, parce qu'on est dans une amitié, je suis désolé pour le mot que je vais employer, mais j'en ai pas d'autre sous la main, interraciale. Turk est noir, JD est blanc. Et je me reconnais beaucoup là-dedans parce que...
T'avais quel âge quand tu visionnais Scrubs ?
Là, j'avais 17 ans, 18 ans.
Tu te voyais dans les personnages un peu ?
Exactement, il y avait un vrai transfert qui s'opérait, d'autant plus que c'était grâce à un ami, David, qui est au Canada aujourd'hui, qui téléchargeait à l'époque, c'est pas bien, illégalement les épisodes.
Sur Mega Upload.
Voilà, il me les mettait sur DVD et je pouvais découvrir les 8 saisons de Scrubs. Pour moi, la 9e n'existe pas.
Okay.
Elle n'est pas bonne, elle est différente. Vraiment, c'est comme ça que j'ai pu découvrir leur amitié qui est basée sur une vraie complémentarité. Ils se connaissent depuis extrêmement longtemps, depuis l'adolescence. Ils ont été au lycée ensemble, à la fac ensemble, mais ils ont choisi deux spécialités différentes. JD dans la médecine générale et Turk est chirurgien. Mais il y a toujours cette connexion entre les deux et cette complémentarité où l'un va toujours remonter le moral de l'autre. L'un est très confiant, l'autre a plus de soucis dans l'estime de soi, JD en l'occurrence. Et Turk, lui, il est super confiant, il est tout le temps là à booster JD. Allez, vas-y, fonce, n'hésite pas à piquer et tout, à produire des actes médicaux. Et c'est vraiment leur amitié extrêmement touchante et très drôle.
Quand tu l'as visionné quand tu étais plus jeune, donc ça t'a fait cet effet-là, mais quand on en a parlé là, il y a quelques mois pour préparer l'épisode, c'est ce duo-là, cette amitié qui t'est venue en premier en tête. Pourquoi ?
Parce que je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu beaucoup de représentations noires et blanches. C'était beaucoup scindé en deux. Il y avait les séries avec la communauté noire, on pense à La vie de famille, Ma famille d'abord, Le Cosby Show, Le prince de Bel-Air, bien sûr. Mais le fait d'y greffer comme ça une amitié forte entre noir et blanc, c'était plutôt rare. D'ailleurs, Turk, c'est Donald Faison, est joué dans Clueless, la série dérivée du film. Et Clueless, ben, c'est Cher, qui est avec une comédienne noire, Dionne. Mais voilà, c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit. C'était assez rare,
ouais,
pour être souligné.
C'était la première fois que tu voyais un duo de mixité, quoi.
Et que j'ai suivi comme ça, qu'on voit grandir, parce qu'on les voit de jeunes hommes en train d'entrer dans la vie active à père de famille. Et c'est ça qui était assez intéressant à observer, assez touchant.
C'est une amitié, du coup, qui est 100% masculine. On sait qu'aujourd'hui, les personnages masculins, on essaye de les écrire un peu plus, qu'ils ouvrent un peu plus leurs sentiments, etc. Pour une série d'il y a plus de 10 ans maintenant, comment c'était écrit ces personnages ? Est-ce qu'ils se parlent ou est-ce qu'ils ne communiquent pas ? Ils se font juste vanne sur vanne, ils parlent de cul, ils parlent des meufs et puis c'est tout, quoi.
Il y a clairement des choses qui ont vieilli, on va pas se leurrer. Ce sont des blagues que certains pourraient trouver sexistes. Je pense au pilote, à un moment donné, quand Elliot, donc c'est le crush de JD si vous voulez, et ils ont une relation un peu à la Ross et Rachel.
Okay.
Tout du long. Et à un moment donné, elle monte les escaliers et JD la regarde en disant « T'as le cul le plus rafraîchissant de cet hôpital. » Voilà, ce genre de vanne-là, On pouvait les écrire et ça passait crème. Aujourd'hui, ça peut heurter et je le comprends. Il y a beaucoup de blagues comme ça qui pourraient être considérées comme sexistes, mais en même temps, il y a quelque chose de militant. Parce qu'on a un personnage comme Carla, qui est infirmière, et qui en a marre qu'on l'appelle cocotte, chérie, ma douce. Voilà, et...
ouais, en fait, c'est un peu comme regarder Friends aujourd'hui. Il faut le regarder avec le recul.
Le prisme et de l'époque.
Ouais, y a des blagues qui ont mal vieilli, mais il y a aussi des trucs sur lesquels ils étaient hyper avant-gardistes. Et là, tu le dis avec ce personnage-là de Carla. C'est comme avec Friends, le fait qu'il y ait un couple d'homo dès le début qui va avoir un enfant. Faut le regarder avec l'œil d'aujourd'hui.
Exactement. Elle fait partie de ces séries qui commençaient à désamorcer le fait que gay soit, entre guillemets, problématique. Au contraire, c'est... qu'on doit coexister et que bah, c'est tout à fait pertinent aussi de mettre ça en lumière. On est sur la NBC des années 2000, donc il y avait clairement quelque chose de progressiste aussi du côté de Scrubs.
Et c'est marrant parce que quand tu m'as parlé de Scrubs, on n'est pas tout à fait de la même génération sur les séries. Et donc moi, forcément, ça a fait écho avec la série que moi, je regardais ado, qui est Grey's Anatomy, où pareil, il y a des personnages d'amis qui sont écrits, qui sont très bien écrits et tout. Si je devais raconter l'amitié... de mes séries d'ado qui m'a marqué dans le domaine médical, du coup on rétrécit vraiment le prisme, c'est vraiment Meredith et Alex dans Grey's Anatomy. Je sais pas si toi t'as vu Grey's Anatomy.
J'ai vu les 5 premières saisons. Ouais,
ouais, bon, de toute façon on en est à la 17e,
j'ai
crois,
abandonné
donc...
il y a longtemps là.
Mais parce que tu vois, l'amitié mixte en termes de race, on va dire, si on peut dire ça comme ça, c'est Meredith et Christina. Mais je trouve que, en fait, moi, ces personnages-là, ils m'apportent rien dans la série. Et du coup, c'est beaucoup plus l'amitié Meredith-Alex qui apporte, parce que pour une fois, on écrivait un duo d'amis qui n'essaie jamais de se mettre en couple et où il n'y a jamais d'attirance amoureuse. Et ça faisait du bien, quoi.
C'est marrant que tu parles de ça, pas plus tard qu'il y a 2 jours avant cet enregistrement. Je tombe sur un épisode comme ça, sur la télé au hasard. On est en saison 14, épisode 1. Et tu as une discussion entre Karev et Meredith. Et en effet, il n'y a pas de tension sexuelle entre ces deux personnages. C'est là où ils sont intelligemment écrits. Ce sont des vrais amis qui confient ce qu'ils ont sur le cœur sans qu'il n'y ait de sous-entendus, de malentendus.
Ouais.
Et c'est profondément touchant. Et je comprends que le départ d'Alex Karev ait profondément marqué les fans.
Ça m'a brisé le cœur.
Visiblement, il n'est pas parti proprement en plus.
Pour chacun son avis, moi, j'étais pas... Ça va. On a parlé de Scrubs et tu m'as parlé aussi de Newport Beach. Là, on est sur quel type d'amitié, quel type de série ? Parce que, en fait, il faut savoir que les 3 séries que Junior t'a choisies, je ne les ai jamais vues. Je ne connais pas les histoires, donc j'ai essayé de me renseigner un peu. Mais vraiment, on n'est pas sur les séries que moi je pouvais regarder ado, donc je découvre en même temps que les auditeurs.
Oui, Newport Beach Z aussi, en version originale, c'est une série de Josh Schwartz, à qui l'on doit également Gossip Girl ou Looking for Alaska.
C'est vraiment marrant parce que quand j'ai lu le pitch de Newport Beach, j'ai dit bon, je pense que c'est un peu comme Gossip Girl,
ben voilà.
Du coup je me suis noté.
C'est le même créateur, c'est bien lui. C'est un teen drama des années 2000 qui raconte l'arrivée de Ryan, qui est un jeune délinquant qui vit dans une ville pauvre de Chino, en Californie. Et grâce à son avocat, commis d'office, Sandy Cohen, il va se retrouver propulsé dans la riche Californie du Sud, ce qui va d'ailleurs perturber l'équilibre de la vie de famille des Cohen. Et en plus de perturber cette famille, ça va perturber toute la stabilité de façade de la communauté d'Orange County, donc de OC.
On est sur quelle amitié ?
Là, on est sur l'amitié, je dirais, fraternelle entre eux. Parce que Ryan, une fois qu'il intègre cette famille, il s'entend super bien avec Seth Cohen. Donc, on est dans une amitié entre Ryan et Seth. Alors, Ryan, c'est un jeune homme très intelligent, mais qui réfléchit plus avec ses poings que son cerveau. Alors que pendant ce temps-là, Seth est c'est l'un des personnages qui est très précieux dans la culture pop, dans les séries, parce que c'est l'un des premiers personnages geeks.
Okay.
Il est fan de BD, il est fan de petites figurines, de produits dérivés. Il a tout le temps la tête dans les étoiles. Il adore se plonger dans des univers comme ça, pop culture. Il fait tout le temps des références à la pop culture, des références méta en permanence. Et il est très drôle, il est plein d'ironie. Et c'est vraiment ce qui me plaît, c'est la combinaison des deux entre le sens du verbe et de la formule de Seth Cohen et le sens du point de Ryan qui va s'assagir au contact de Seth. Et Seth, lui, au contact de Ryan, va grandir un peu plus et devenir un homme plus soucieux des sentiments des autres, parce qu'il est très auto-centré, Ryan. Seth, au départ.
C'était aussi évident pour toi de choisir cette amitié que l'évidence de Scrubs ?
Oui, parce que j'ai grandi avec cette série, j'ai regardé les 4 saisons quand j'étais jeune adulte, toujours cette même période, 17-18 ans, et je les trouve extrêmement touchants parce qu'ils ne se laissent jamais tomber, et ça c'est très important pour moi dans l'amitié, peu importe la distance, peu importe les périodes de troubles qu'on peut traverser, parce qu'ils en traversent aussi, il y a toujours ce lien indéfectible, au-delà du lien du sang, parce que Ryan va être adopté au bout d'un moment par la famille des Cohen, il va faire vraiment partie intégrante de la famille, et ils vont devenir des espèces de frères, mais pourtant il n'y a pas le sang qui les lie, et je trouve ça profondément touchant.
Tu t'es représenté avec un de tes amis en eux, ou juste c'était un peu un fantasme de dire oh, « j'aimerais bien avoir une amitié aussi chouette que la leur
». Avec deux de mes amis, David et Julien, ouais, probablement parce qu'il y avait déjà cet état d'esprit-là, en fait. Même s'il y a des problèmes de cœur, je dis n'importe quoi, une fille qui est au milieu et qu'on a tous les deux en visu, on ne va pas briser ou mettre en péril une amitié pour ça. Donc, s'il y a un transfert, il est léger sur certains arcs narratifs qui ont pu exister dans la série, mais c'est vraiment épisodique pour le coup.
Et par rapport à Scrubs, comment elle a vieilli cette série ?
C'est intéressant parce que elle vieillit pas si mal.
Tu l'as revue, non, récemment ?
Oui, pendant les confinements. Ça n'a pas si mal vieilli que ça, parce que j'aime beaucoup le fait qu'on confronte cette communauté complètement déconnectée de la réalité à un homme qui lui-même connaît bien la réalité de la galère, le fait d'avoir une difficulté de joindre les deux bouts, de ne pas avoir grandi avec ses deux parents, le fait de devoir être mature plus vite. Et j'adore le fait que ce personnage-là soit confronté à d'autres qui ont parfois renier le fait qu'eux-mêmes étaient dans une famille pauvre. Et je trouve ça passionnant, en fait.
Très bien. En fait, tu me donnes envie de découvrir la série. Alors, je ne sais pas si ça se regarde encore en 2022, mais ça donne envie.
Ça pique au niveau des looks, hein, parce que les jeans taille basse et les débardeurs pétants...
Mais on y revient, hein. Donc, ça va. Ça me fait rire vraiment que tu aies parlé de Newport Beach, parce que le premier truc que j'ai noté, c'est vraiment... Ça doit être un peu comme Gossip Girl, et c'est une série qui m'a accompagnée et que j'aime regarder encore maintenant, même si il y a plein de choses qui sont problématiques aujourd'hui.
Tu veux qu'on parle
notamment de Chuck ? La culture du viol.
Tu veux qu'on parle du personnage de Chuck ?
Et c'était mon personnage préféré quand j'étais ado, vraiment, mais bon, bref. Je vous conseille pas de regarder ça aujourd'hui. Et toi, tu m'as parlé de Buffy contre les vampires aussi, pareil, qui est une série que je ne connais pas. Elle, j'ai vu qu'elle était disponible sur Disney+, donc pour ceux qui ont un abonnement, vous pouvez encore la visionner. C'est l'histoire de Buffy qui défend sa ville de Sunnydale, tu me dis si je me trompe, hein, parce que la ville est attaquée par des vampires, et donc Buffy est là pour défendre tout le monde.
Des vampires, des démons, des monstres en tout genre. Si tu veux, c'est l'épicentre de l'enfer.
Oh,
et
yes.
Buffy est l'élu. Elle a ce poids sur ses épaules, elle n'a pas d'autre choix. Et ce qui est drôle au départ de la série, c'est qu'elle vient de Los Angeles. Elle a fui déjà un lieu où il y avait une horde de vampires. Elle voulait plus de cette vie. Elle dit « Comment ça, je suis la tueuse de vampires ? Moi, ce rôle-là, j'en veux pas. Débrouillez-vous. » Et puis finalement, ça lui retombe dessus quand elle arrive à Sunnydale, dans cette petite ville, quand elle suit sa mère, Joyce. L'amitié est à tous les étages dans cette série, un peu comme Scrubs, d'ailleurs j'ai oublié de le dire. Dans Scrubs, vraiment, l'amitié est à tous les étages. Et celle qui compte le plus, c'est celle qu'elle a avec Willow, et que j'aime beaucoup. Notamment, je dirais, dans les 3 premières saisons. Après, il y a une scission que je ne vais pas expliquer, mais même si elle s'adore et que c'est un peu plus à distance, c'est profondément touchant comment, encore une fois, elles se tirent vers le haut l'une et l'autre. Au départ, la rencontre entre les deux, c'est vraiment Buffy qui s'intéresse à Willow en mode « Ah, toi, t'as l'air brillante, t'as un cerveau, tu vas m'aider à faire mes devoirs. » C'est un peu
gênant. « Tu vas être mon amie, je vais profiter de toi.
» Voilà, « Tu vas être mon amie et tu vas m'aider à faire mes devoirs parce que je galère, je suis un peu perdu, comme je suis la nouvelle, je suis un peu perdu. » Et finalement, elles vont nouer des liens dans le combat contre le mal. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que elles vont s'adapter l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller sur le terrain comme Buffy pour affronter les vampires, elle n'a pas les capacités physiques pour le faire. En revanche, elle va devenir une sorcière, et par différents sortilèges, elle va à distance aider Buffy à tuer les démons et autres monstres et ça. J'aime beaucoup comment elles arrivent à se tirer vers le haut l'une et l'autre.
Et là, comment tu t'es identifiée ? Parce que pour les deux premières séries, tu m'as donné des binômes qui étaient des binômes masculins. Là, on est sur un duo féminin. Comment tu t'es identifiée ?
C'est marrant que tu poses cette question parce que j'ai jamais pensé en termes de genre. Mais vraiment, c'est pas une question d'être woke, d'être en période post-MeToo. Sincèrement, j'ai jamais fonctionné en question de genre. Dans Scrubs, je suis autant touché par l'amitié J.D. Turk que par l'amitié Carla Elliott. Okay. Et ben dans Buffy, c'est pareil. Je suis extrêmement touché par la connexion qu'il y a entre elles deux et comment, à un moment donné aussi, l'une va pousser l'autre dans ses retranchements, mais pas avec une mauvaise intention. Je vais te donner un exemple concret, c'est quand Willow va voir Buffy en lui disant mais à chaque fois tu me parles de ce que toi tu vis sur le terrain, de ce que toi tu traverses, de ta difficulté à avoir une histoire d'amour avec Angel, mais est-ce que tu t'intéresses qu'à ce que je vis moi avec Oz ? Oz, c'est son petit ami loup-garou. Oui, il faut regarder la série pour quoi.
Ouais, ouais. Elle l'a pas tué lui.
Non. Et moi je traverse des choses avec Oz aussi, il y a la question de la première fois avec lui, il y a la question de sa construction en tant que femme à la fac, la sorcière qu'elle devient. Et Buffy, elle reproche à Buffy, elle lui dit « Mais tu t'intéresses pas à ma vie et à moi alors que je dois tout le temps être là au garde à vous pour répondre à tes besoins quand il faut combattre le mal. » Et c'est ça qui, moi, me touche. C'est vraiment d'être soucieux, de ne jamais perdre l'autre de vue. Et peu importe le genre.
Et ça marque un peu un tournant dans leur histoire, dans la série ?
Oui, parce que, par exemple, dans Buffy, désolé, je spoil, mais il y a un moment donné où elles vont être amenées à vivre en colocation. Il y a aussi la question de l'homosexualité de Willow, qui à un moment donné se met en couple avec une femme. C'est la première relation, le premier bisou entre deux femmes dans une série, c'est dans Buffy.
Wow, okay.
Et ça n'a jamais été un enjeu entre elles, entre Buffy et Willow. Et ça, j'ai beaucoup aimé, en fait. Il y a des non-dits aussi qui sont très précieux et importants dans l'amitié. Et je trouve que dans Buffy, c'est... Oui, il y a du verbal, comme j'ai expliqué dans l'exemple précédent, mais il y a aussi du non-verbal.
Ouais, de ne pas faire certaines histoires, de ne pas les mettre en avant, en tout cas, parce que ça n'a pas d'impact. Pourquoi tu as choisi celle-ci en particulier avec Buffy ? Parce que j'imagine que tu as regardé plein d'autres séries quand tu étais ado. Pourquoi tu as choisi ça ?
C'est l'une des séries qui m'a le plus marqué. Je suis de l'époque Trilogie du samedi.
Sur M6.
Voilà. Elle m'a marqué parce que... J'aime beaucoup le fait d'avoir des filles badass dans une série. J'avais toute une période comme ça où je regardais Buffy, je regardais Alias avec Jennifer Garner. C'était sympa. Moi, j'adorais voir James Bond et son côté macho, puissance 1000, mais j'aimais bien contrebalancer avec des femmes qui n'ont pas peur d'affronter le mal à plusieurs, en groupe, en meute. Moi, j'adorais ce côté Scooby Gang en meute comme ça, porté par Giles en espèce de papa pour eux. Et c'est un ensemble de toutes ces choses-là qui me plaisent et qui font que ça m'a marqué.
Aujourd'hui, parmi les trois séries que tu m'as données, est-ce qu'il y en a une que tu recommanderais de voir plus particulièrement qu'une autre ? Parce que c'est celle qui est la mieux écrite, c'est celle qui a le mieux vieilli, enfin peu importe la raison, tu vas nous expliquer.
C'est difficile de répondre à ça, c'est très dur. J'hésite entre Newport Beach et Scrubs. Je dirais Newport Beach quand même, qui a une valise de défauts. Il y a 4 saisons, vous pouvez... clairement oublié la 3 et la 4. Sa grande force, c'est que il y a forcément une amitié qui va vous toucher dans cette série. Vous avez Seth et Ryan, vous avez Marissa et Summer, vous avez Sandy Cohen, donc le père de Seth, et Jimmy Cooper. Vous avez tout un éventail d'amitiés et il y a forcément une amitié qui va vous parler et qui va résonner en vous. S'il y a bien une série que je recommanderais, c'est celle-là. Dans son écriture, elle est incroyable. Je sais que la génération, je parle comme un vieux con, désolé, mais je sais que la génération d'aujourd'hui est habituée aux séries au format court, 12-13 épisodes. Là, on est sur 27 épisodes la saison 1.
C'était l'époque. Hein.
Et là, je vois tout de suite le réflexe de la génération d'aujourd'hui, et vous avez raison, et je le comprends, c'est de dire « Ouais, mais il y a des épisodes, c'est du remplissage, ça n'a aucun intérêt. » C'est une série, pour utiliser un jargon ancien, une série feuilletonnante. Il n'y a aucun épisode qui est superflu dans les deux premières saisons. Et il y a une qualité d'écriture qui est parfois en avance sur son temps et qui est beaucoup plus féministe qu'on le pense. vous penserez à moi quand vous verrez le personnage de Summer, une bombe féministe en puissance, quoi, mais elle l'ignore encore. Elle est... ça va au-delà d'être une femme de caractère, c'est beaucoup plus que ça, du genre, à un moment donné, j'ai pas besoin d'homme pour pouvoir m'épanouir et vivre ma vie. Et ça, déjà, écrire ça en 2004, à l'époque, au milieu des années 2000, c'est fort.
En tout cas, moi, ce qui me marque, c'est que t'es hyper engagée sur cette série. Et c'est surtout qu'on n'a pas du tout, du coup, eu les mêmes séries d'ado, quoi. Moi, tu vois, j'étais plus sur Gossip Girl, How I Met, Grey's Anatomy, enfin...
J'étais déjà vieux pour ça, je les ai regardées aussi.
Oui, j'imagine. Mais du coup, c'est marrant et ça me permet de découvrir aussi d'autres choses. Et j'imagine aussi que ça fait le même effet pour les auditeurs et auditrices. Et en plus, tu dis que c'était des séries qui étaient longues, mais parce qu'en fait, dans les séries de notre adolescence, même si moi, j'étais ado plus tard que toi, c'était long, mais parce que du coup ça nous laissait le temps vraiment de s'attacher au personnage. Moi c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si toi ça te le fait, mais les séries sont plus courtes avec des épisodes qui durent moins longtemps, t'as moins d'attachement au personnage, c'est bon, t'as fini la saison 1, tu vois, moi hier encore j'ai regardé une série, j'ai regardé la saison 1 en une soirée, quoi. Oui, j'ai aimé les personnages et je serais contente de les retrouver, mais je les aime pas autant que j'ai pu aimer Meredith et Alex, par exemple, dans Grey's Anatomy. Enfin, c'est vrai que...
Ah, je ressens complètement ça, et je prends souvent l'image du disque dur. On regarde, on empile, on enchaîne tellement de séries que les plus récentes écrasent les anciennes. En effet, il n'y a plus ce lien, cet affect qu'on crée avec les personnages avec lesquels on grandit. Si j'aime autant Newport Beach, c'est parce que vous allez aimer Ryan dans son imperfection, vous allez aimer Seth dans ses imperfections. Ça s'inscrit en plus sur l'équivalent de 42 épisodes en deux saisons, c'est un temps long. Et ce temps long, en effet, je valide complètement ce que tu dis, il est précieux. Ça se perd et c'est dommage, il y a une vraie perdition. Je trouve que l'une des rares à arriver à créer ce lien malgré le fait d'être courte aujourd'hui, c'est Sex Education.
Ouais, parce qu'en fait, il y a aussi ce qui se joue dans l'attente. Nous, à cette époque des séries, on regardait un épisode, on attendait une semaine qu'il sorte, on galérait à le trouver sur des plateformes de téléchargement illégal, enfin, d'avoir
vouloir.
Les bons sous-titres, enfin bon voilà, on comprenait pas toujours tout. Puis il y avait la période de pause à peu près en novembre, là, et puis après, il y avait l'été où il y avait rien, t'attendais la saison d'après. Tu les aimais, ces personnages, quoi, pour vouloir les revoir toutes les semaines, attendre avec impatience que ça sorte. Et
la frustration a changé de camp. Avant, la frustration était celle juste de la période estivale et de Noël. Maintenant, la frustration, c'est je mate toute ma série en un week-end et pour retrouver ce lien que j'ai créé avec ces amis de fiction, ben, je dois attendre un an. La frustration a bougé et s'est allongée, en fait.
Je t'avais demandé aussi si tu avais une série à nous recommander. C'est une série qui te marque et dont tu as envie de parler et que tu as envie que tout le monde regarde.
Alors, je vais vous citer Only Murders in the Building.
Ok, qui est disponible sur Disney+, avec Selena Gomez.
Avec Steve Martin également. Et Martin Short. Et c'est une série qui est magnifique. 10 épisodes de 30 minutes en moyenne qui m'ont bouleversé. Et ça raconte en fait l'histoire d'un, comme le titre l'indique, hein, d'un meurtre qui est commis dans un bâtiment extrêmement luxueux à New York et qui implique, donc les trois héros, les trois personnages principaux sont deux hommes d'un certain âge. Ils ont bien passé 70 ans, hein, 60 ans, 65 ans, je dirais. Et une petite jeune, Selena Gomez, qui a 30 ans. Et on se demande d'ailleurs ce qu'elle fait là, comment elle a réussi à se payer un appartement dans cet endroit. Et il se trouve que, je ne vous dis pas pourquoi bien sûr, pour tout un tas de raisons, chacun de ces trois personnages-là sont impliqués et sont liés au meurtre d'un jeune homme qui a été commis dans ce bâtiment. Ils ne savent pas encore, enfin il n'y a qu'un des trois qui le sait, mais parallèlement à ça, ils adorent les histoires de crimes, les crime stories, ils en suivent sur YouTube. Et
ils
en podcast.
Des podcasts.
Et ils se disent, et ils ont cette idée ingénieuse de, ben, on va raconter notre enquête à nous pour résoudre ce crime dans un podcast. Et c'est fabuleux, ça combine deux choses que j'adore, la série et le podcast. Vraiment, il faut voir cette série pour un épisode qui est formidable et qui va vous marquer, j'en suis convaincu. C'est le saison 1, épisode 7.
C'est précis.
Ouais. Où il s'agit d'un homme qui vit dans l'appartement 6B, c'est parce que j'ai une mémoire visuelle à force de ma télésérie. Ce personnage est sourd. Et en fait, tout l'épisode, vous allez le vivre dans les conditions qui sont les siennes au quotidien. En étant sourd, vous avez un bruit sourd tout du long. Et la qualité parce que même s'il n'y a pas un mot qui sort de la bouche des personnages principaux, la qualité d'écriture pour que vous compreniez tous les enjeux qu'il y a force le respect. Alors vous me direz, bah, on n'a rien inventé, il y a eu les films muets avant. Oui, mais il faut être capable de le faire dans les années 2020 et capable d'intéresser les spectateurs qui sont extrêmement fermés à aller à jeter un œil en arrière. Donc vraiment, on combine la série, le podcast et on a un épisode qui restera dans l'histoire des séries. Rien que pour ça, il faut le regarder.
Ouais, moi je valide totalement ta reco, et même si on veut rester sur l'amitié, finalement, ces trois personnages principaux, par la force des choses, deviennent amis. Proches, amis, ils se livrent sur leur vie. Fin...
Et j'adore cet amour, cet ami, lapsus révélateur, j'adore cette amitié transgénérationnelle en fait. On sent qu'ils sont tous les trois producteurs de la série, donc ils ont une main mise sur l'écriture, et on sent qu'ils aiment travailler ensemble tous les trois. Ouais. La preuve, il y aura une saison 2 d'ailleurs.
Et on a hâte. Enfin, ouais, moi j'ai vraiment adoré, je valide à 100% ta reco, c'est une très très belle série. On est déjà à la fin, merci
ça
beaucoup.
Ça passait trop vite.
Bah ouais, on est à une demi-heure d'enregistrement et puis vu qu'après je dois prendre mon train, on va pas déblatérer plus. Mais merci. En tout cas, pourquoi pas faire une deuxième session sur
avec
d'autres
plaisir.
Périodes de nos vies et des séries ou même de films, pourquoi pas.
Avec plaisir, quand tu veux Solène.
Merci beaucoup Junior.
Merci beaucoup Solène, à bientôt.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, fais comme Laetitia du podcast Derrière les sourires. Tu peux me mettre un commentaire sur Apple Podcast et une pluie d'étoiles sur Spotify et Podcast Addict. Laetitia, par exemple, elle a écrit « Un podcast super sympa, une très belle ode à l'amitié. J'ai adoré l'épisode de Camille et Justine dont j'admire le travail. C'était chouette d'en apprendre plus sur l'histoire d'amitié de ce binôme militant. J'apprécie également beaucoup les épisodes court format. Bravo Solène pour ton travail, un plaisir pour les oreilles. » Et bah écoute, merci beaucoup Laetitia, ces commentaires ça me fait extrêmement plaisir évidemment, ça m'aide beaucoup puisque ça booste mon moral quand j'ai des petits coups de mou, puisque ça m'arrive aussi, et ça permet aussi à d'autres personnes qui sont accros au format podcast de découvrir mon travail. Alors surtout, si toi tu n'as pas encore laissé de commentaires, n'hésite pas à le faire, ça te prend 2 petites minutes. Et puis si tu n'écoutes pas le podcast sur Apple Podcast, tu peux laisser, comme je l'ai dit, une pluie d'étoiles un peu partout sur d'autres plateformes comme Spotify et Podcast Addict. Et surtout, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi, c'est encore le meilleur moyen pour se faire connaître aujourd'hui. Alors un grand merci d'avance pour ton aide, et en attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer ?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast. Avant, j'étais prof.
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.